Oui, le film est somptueux. Il est composé image par image, quasiment. Chaque image est un tableau. Et on n'est pas habitué à cette lenteur dans un récit filmique, mais c'est captivant, c'est beau.
Des magnifiques tableaux, des reproductions. Ça faisait penser à Shakespeare, Victor Hugo. Intéressant, mais étonnant. Très étonnant. À voir quand même.
Il y avait des super plans caméra et tout ça, c'était super beau les décors. Mais c'était long.
Non, moi j'ai pas trouvé ça long. J'ai trouvé ça reposant.
C'est très très élégant. Les paysages sont super, c'est surtout la façon dont c'est filmé. C'est délicat, c'est...
Il faut ça superbe. Vraiment, visuellement, la perfection.
Beaucoup aimé les silences et la lenteur et les paysages. Et vraiment, c'est la Chine.
Il faut accepter le rythme très lent du film. Mais c'est shakespearien, je dirais vraiment.
Moi je suis assez étonnée parce qu'à la base je pensais venir voir un film dans le genre de Tigre-Dragon, donc c'est pas du tout la même chose. Donc oui, il faut accepter la lenteur, c'est un ensemble de tableaux qui sont quand même très esthétiques au niveau des paysages et des costumes, c'est magnifique. Mais j'étais un peu décontenancée.
C'est vrai qu'il y a vraiment un poids du silence dans ce film,
c'est exactement. Ils économisent les mots, c'est on va à l'essentiel.
Chaque image est un tableau, c'est très beau.
Très poétique.
Ouais. Les couleurs sont très belles.
Père, moi je m'en foutais de rien comprendre. L'image du film est tellement belle que c'est pas très grave en fait.
C'est très très beau.
C'est vraiment magnifique.
C'est absolument magnifique.
Très très joli, très beau.
Un beau film.
Écoutez, c'est formellement très beau, mais j'ai rien compris.
Cercavo la grande bellezza, ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor, d'étoiles plein les yeux. Le moins que l'on puisse dire cette semaine, c'est que c'est une toile de maître dont il s'agit, The Assassin de Hu Hsiao-sen. Et pour le contempler avec moi, les yeux de Sarah et Léo qui se joignent aux miens.
Ce film, Hu Hsiao-sen l'avait en tête depuis plusieurs décennies, depuis qu'il fait du cinéma pour ainsi dire, et a des airs d'aboutissement dans la carrière bien remplie du grand maître taïwanais. The Assassin est un film de sabre, en costume, et l'intrigue se déroule au 9e siècle. Et malgré la stature du film, c'est avec une grande économie qu'est tracée cette intrigue. Le personnage principal, Yin Yang, jeune femme formée aux arts martiaux par une nonne, est envoyé par celle-ci pour tuer Jian, le gouverneur de la province de Weibo, rebelle au pouvoir impérial. Or, Jian est un cousin de Yin Yang auquel elle a été promise et dont elle est toujours amoureuse. Si c'est là l'essentiel du scénario, ce n'est certainement pas l'essentiel du film. Avec moi pour vous le prouver, Sarah et Léo, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être un premier avis sur ce film The Assassin.
Alors, je crois qu'on peut déjà dire qu'on a... Enfin, personnellement, je n'ai pas tout compris. Et c'est vrai que c'est un film qui reste très mystérieux. D'un bout à l'autre, il y a beaucoup de choses qui restent un petit peu obscures, on va dire. Mais, enfin, néanmoins, c'est quand même important. C'est quand même un film très esthétique. Alors, bien sûr, du coup, comme on reste un petit peu sur notre fin, parce qu'à la fin, on ne comprend pas trop tous les tenants et aboutissants du film. Mais bon, il y a quand même une recherche esthétique qui est intéressante.
À peu près du même avis, le film est magnifique. Là-dessus, il n'y a pas à dire, hein, que ce soit au niveau des couleurs, de la mise en scène, des plans, de l'alternance entre scènes calmes et scènes d'action. Ça fait vraiment un ensemble qui est vraiment très très joli à regarder. Mais c'est vrai que sur la narration et le scénario, des fois on s'y perd un petit peu. On ne sait pas trop qui et quel personnage. Il y a certains personnages, on n'a pas leur nom, on voit juste des figures à l'écran qui apparaissent sur certains plans. Et c'est tout.
Alors oui, je pense que c'est un peu la première et la dernière chose qu'on dit de ce film, c'est qu'il est particulièrement hermétique. Mais je pense que c'est Son intérêt est dans le fait que cet hermétisme nous oblige à nous concentrer sur le film tout entier, et de ce point de vue là c'est une véritable splendeur, ce film, et c'est une splendeur à laquelle on ne comprend pas forcément tout et qui tire une partie de sa beauté justement du fait que c'est quelque chose dont on sent que ça nous dépasse.
Et peut-être que justement le film cherche à pousser le spectateur à dépasser cette, le simple cadre de l'action, puisqu'il y a une forme de lenteur pendant tout le film. Il y a beaucoup de scènes où il n'y a personne qui parle, où il y a parfois même rien qui bouge, enfin, presque des photos en quelque sorte, et je pense que c'est important pour l'esthétique du film. Et du coup, peut-être qu'on veut laisser au spectateur en fait, le temps de réfléchir sur juste la beauté des paysages, des scènes, dans leur simplicité. Et du coup, dépasser en quelque sorte le simple cadre politique d'une action un petit peu, qui reste très marginale en fait.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a notamment l'envoi du prévôt et du commandant donc à la frontière. Effectivement, c'est une action politique, mais on ne sait pas trop pourquoi l'assassin les suit. Donc c'est vrai qu'au niveau, certaines grandes phases du film en fait sont amenées, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais pourtant, on les suit quand même. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes. La scène n'a aucun intérêt au niveau narratif, mais c'est juste au niveau contemplatif, au niveau des sons, qu'il y en a
en termes de tension aussi.
Voilà, oui, aussi.
Absolument. Peut-être que cette tension, elle est aussi rendue par les couleurs, tu disais les sons, mais aussi, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des touches de couleurs assez... Enfin, il y avait beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de scènes avec du rouge quand il y a un homme qui apparaît dans l'écran, en fait.
Toutes les scènes qui se passent dans le palais, dans la grande majorité d'entre elles, en fond, on a un tambour de guerre qui martèle de manière régulière, qui appuie vraiment la tension.
Alors justement, puisqu'on en était à parler de l'esthétique, c'est vrai que l'esthétique du film est impressionnante et elle touche vraiment tout dans le film. Ça commence alors par les couleurs, tu en parlais, ces couleurs rouges très très chaudes, énormément de sombre, un gros contraste, des images vraiment magnifiques, des scènes d'intérieur très 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 sombres avec des lumières rougeoyantes. Des décors absolument époustouflants et les costumes de même.
Lumière très réaliste aussi. On a beaucoup de scènes où l'éclairage, on sent qu'il n'y a aucun ajout, que c'est, oui, c'est comme nos yeux les percevraient.
Oui, voilà. Et c'est en même temps très réaliste et très esthétisé. C'est là qu'il y a un vrai tour de force.
Oui, je pense qu'il y a vraiment une volonté de mêler, de jouer sur cette. Sur ce contraste entre lumière et ombre, et ça dès le début, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première scène est en noir et blanc.
Oui.
Et alors moi, ça m'a immédiatement fait penser à des vieux films où, en fait, les contrastes entre la lumière et l'ombre révèlent vraiment la situation des personnages. Et par exemple, elle est vêtue de noir pendant tout le film, mais la nonne, donc sa maîtresse, enfin son éducatrice en quelque sorte, est en blanc, et quand elle bondit sur sa victime, il y a une sorte d'éclair noir qui coupe la scène assez claire. Et du coup, ce premier jeu de contraste dès la première scène est ensuite repris pendant tout le film avec, comme tu disais, les lumières et les taches de couleurs.
Et ce contraste entre sa tenue noire et les couleurs environnantes aussi, parce qu'il y a ce personnage en noir.
Toujours en noir.
Sur cette scène aussi, il y a un énorme contraste au niveau du son. C'est-à-dire qu'au moment où elle bondit, il n'y a aucun son. Et quand sa lame touche, normalement, sa lame tranche une gorge. Une lame qui tranche une gorge, ça ne fait pas vraiment de bruit. Or là, on a comme si elle mettait un coup de poing. On a un énorme bruit au moment où elle assassine sa cible. Et après, à nouveau, le plan suivant, où on voit juste un arbre qui bouge en plan fixe avec simplement le vent.
Alors justement, tu parles du bruit du vent, tu parlais aussi des sons tout à l'heure. L'esthétique est aussi extrêmement travaillée sur la bande-son qui fait place à très 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 peu de musique et aucun silence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, excepté précisément pendant cette scène, au moment précis où sa victime tombe de cheval, qui est absolument silencieuse, il y a toujours un bruit d'ambiance, un bruit de vent, la nuit, tous les grillons.
Oui, mais justement, il y a toujours un bruit d'ambiance et il n'y a presque jamais personne qui parle. Alors ça, c'est quand même impressionnant. Et notamment le personnage principal qui est muet pendant tout le film, sauf
quatre
à un moment. Du coup, ça met une sorte d'ambiance. Je pense que c'est aussi une façon de mettre en avant la nature, parce qu'il y a beaucoup de scènes aussi où on filme simplement les arbres, le bruit des arbres.
Cette nature qui paraît particulièrement vivante, c'est-à-dire qu'à aucun plan on a l'impression de contempler une nature morte à tous les sens du terme. Oui. C'est vraiment, l'image est toujours en train de frissonner.
Oui, vraiment, il y a un frisson.
C'est que ça soit justement le vent dans les arbres et ces feuilles qu'on voit imperceptiblement bouger.
Nature vivante.
Ou les oiseaux qui s'envolent aussi.
Les oiseaux qui s'envolent des scènes, mais même les tentures en intérieur qui sont toujours balayées par le vent.
Oui, d'ailleurs, une scène d'ailleurs avec les tentures.
Ah oui, il y a une scène très longue pendant une dizaine, quinzaine de minutes où la victime, je ne sais plus son nom, Jian, parle avec sa femme et en même temps que des tentures cachent la vue aussi. Et
les tentures va et viennent. Le personnage est dans la lumière, des fois il est dans l'obscurité. Mm-hmm. Alors que par contraste, l'assassin qui les observe, lui, est toujours dans l'obscurité. Il est toujours voilé par les tentures. Ce qui fait que même au début, on ne distingue pas son visage.
Oui, exactement. Et tout le film est vraiment traversé par une forme d'esthétique de la dissimulation. Que ça soit celle des personnages, celle du scénario ou celle de la caméra. Mais tu parlais de cette scène où que l'on observe pendant peut-être une dizaine de minutes à travers des voiles de soie qui bougent et à travers lesquelles on voit la lumière. Mais en fait, la caméra est toujours d'une certaine façon cachée derrière un premier plan et la scène est vue comme si on était en train de se cacher fondu dans le paysage. Il y a toujours des branchages au milieu. Il y a cette princesse masquée aussi, princesse masquée sur laquelle tout le monde s'interroge parce qu'on ne sait jamais exactement qui elle est. Jusqu'au générique où on voit que c'est en effet la femme du gouverneur. Et même finalement, et on revient à ce qu'on disait en introduction, dans le scénario, les choses sont dissimulées. L'histoire elle-même est construite en creux.
Oui, avec cette volonté de ne pas tout dire, de laisser beaucoup de zones d'ombre, comme on disait au début. C'est intéressant parce que du coup, les personnages eux-mêmes deviennent très, très secrets. Et par exemple, donc, le personnage principal, Yin Yen, reste très impassible pendant tout le film. Et à un moment donné, elle pleure quand sa mère lui rappelle qu'elle a été trahie par la femme qui lui avait promis d'épouser son fils. Enfin, voilà. Et elle se cache le visage à ce moment-là. Le seul moment où elle trahit une émotion, elle dissimule son visage.
Oui, c'est une émotion assez violente.
Oui.
On parlait d'hermétisme au début, mais il y a aussi, comme pendant à cet hermétisme, une forme de retenue.
C'est de pudeur, peut-être.
Oui, voilà. C'est un film d'amour où on ne montre pas sa passion, mais ça reste quand même un film sur une passion qui est quand même très violente. C'est un film d'action où l'essentiel est constitué de contemplation.
Peut-être justement pour mieux le montrer, parce que du coup, les scènes de combat sont beaucoup plus impressionnantes, parce qu'elles sont peu nombreuses, en fait. Et donc, comme on a cette ambiance de lenteur et de contemplation, comme on disait, là, pour le coup, il y a une vraie violence qui est vraiment frappante pour le spectateur.
Beaucoup de violence dans les scènes de combat, mais ce qui n'empêche pas que les scènes de combat sont extrêmement lisibles. Notamment, le combat contre la princesse masquée, où on voit effectivement chacun des mouvements de l'une d'entre elles, et on devine rien qu'en voyant le combat et rien qu'au son du combat, qu'effectivement, sa lame a touché le masque. Rien qu'avec ça, le combat donc est terminé. Et on a simplement cette suggestion, mais on comprend quand même l'entièreté du combat, ce qui est presque...
Et là aussi, il y a vraiment cette retenue, c'est-à-dire que finalement, le seul combat qui se solde par un meurtre est le combat dans le prologue en noir et blanc.
Je pense que c'est vraiment l'aspect important du personnage de Yin Yen. Pendant tout le film, on a l'impression qu'elle reste très distante, alors même que le meurtre qu'on lui demande d'accomplir la révulse profondément, elle ne peut pas l'accomplir clairement. On sent qu'il y a une forme de distanciation au fur et à mesure du film, et je pense que c'est peut-être ce qui explique aussi, donc, premièrement, la forte présence de la nature, parce qu'en fait, à la fin du film, elle quitte en quelque sorte le milieu de la cour, puisqu'elle part avec des paysans dans la montagne. Et du coup, à ce moment-là, elle prend en quelque sorte son indépendance, et c'est peut-être ce qui explique son impassibilité, son indifférence à beaucoup de choses qui se passent.
Et donc, tous ces éléments, que ce soit les éléments esthétiques, les éléments visuels, sonores, cet hermétisme dans le scénario, ce personnage principal, tout ça, ça fait rendre ce film une œuvre splendide, je pense qu'on peut le dire, même s'il est parfois assez difficile d'accès, on ne peut pas dire le contraire non plus. Ça montre aussi, je pense, de façon assez impressionnante à quel point le cinéma est vraiment un art très complet, un art très divers, au même titre que la littérature, par exemple. Il y a une vraie force poétique dans ce film. C'est ce genre de films qui sont peut-être au cinéma ce que la poésie peut être à la littérature. Une recherche d'un sens supérieur à travers vraiment une esthétique. Et que ça soit la façon de dire énormément en très peu de choses, cet hermétisme imprégné d'une culture chinoise que nous ne maîtrisons pas. Et on sent bien qu'il nous manque un bagage culturel pour mesurer tout ce que signifie ce film. Et puis cette beauté presque mystique font de ce film d'une certaine façon une calligraphie, ces fameuses calligraphies chinoises à l'image de celle qui est vraiment magnifique et qui inaugure le film après le prologue en noir et blanc. Et maintenant, passons à l'agenda de votre semaine. J'aime autant vous prévenir, il est bien rempli. Pour commencer, Brooklyn, de John Crowley, qui suit une jeune Irlandaise des années 50, Alice, qui se décide à traverser l'Atlantique pour rejoindre New York et y découvre la liberté. Mais la mort de sa sœur la ramène en Irlande et la met devant le choix douloureux entre le passé et l'avenir, entre l'exil et l'ennui, entre deux amours aussi, et c'est un film sans autre prétention que de parler de l'exil, servi par l'actrice Saoirse Ronan, étoile montante déjà remarquée plusieurs fois ces dernières années. Et puis une sortie de ce mercredi, Les Ogres, de Léa Fener, portrait coloré d'une troupe de théâtre itinérant composée de personnages bariolés, dont un vieux couple perturbé par le retour d'une ancienne amante, un père endeuillé et bousculé par la grossesse de sa nouvelle compagne, interprétée au passage par Adèle Haenel, et bien d'autres personnages encore, pour un patchwork plein d'énergie, d'émotion, de passion et de vivacité. Moins récent, mais tout à fait immanquable. Une semaine de cinéma muet à l'Institut Lumière, avec accompagnement au piano comme à la grande époque, et des films comme L'Aurore de Murnau ou Queen Kelly d'Erich von Stroheim. L'évocation de ces noms devrait suffire à vous convaincre d'y aller. J'en profite pour signaler également ce dimanche la projection du monumental Ludwig ou le crépuscule des cieux, chef-d'œuvre de Visconti consacré à Louis d'Haute-Bavière. Et c'est pas fini. Pour les plus casaniers d'entre vous qui voudront rester à l'ENS, le documentaire Les Indignés de Tokyo passera en Kantor lundi à 20h et sera suivi d'un débat avec le réalisateur Oguma Eiji, qui a filmé le mouvement antinucléaire japonais après la catastrophe de Fukushima. Et pour finir, la 7 projettera mardi soir, en Kantor également, la célèbre trilogie de Cédric Lapiche, L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois. Les références de toutes ces suggestions sont sur la page de l'émission sur transistor.fr. L'étoile plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sarah et Léo pour leur participation à l'émission, et un grand merci aussi à l'équipe du Comédia pour nous avoir permis d'enregistrer la réaction de ses spectateurs, et même de les réenregistrer suite à un petit souci technique. Bonne semaine dans les salles obscures.